on va pouvoir continuer à mieux attirer et mieux retenir des expertises de pointe ici à Laval.
I personally approve the decision to seek a search warrant in this matter.
Bon jeudi. Pendant une bonne partie de la pandémie, ça a été un gros problème au Canada, l'accès aux vaccins. Tout ça parce qu'on a perdu l'expertise et les infrastructures, particulièrement au Québec, pour en produire en grande quantité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'annonce de la construction à Laval d'une méga-usine de Moderna a tout pour réjouir. Et quand je dis méga-usine, c'est pas pour rien. Ces installations lavalloises auront une capacité de production pouvant aller jusqu'à 100 millions de doses de vaccins par année. On va en parler dans un instant avec notre reporter Louis-Philippe Bourdeau. Mais d'abord, Nouveau Info a appris que la vaccination au Stade olympique sera relancée dès lundi. Sabrina Rivet, bonsoir.
Bonsoir, Étienne.
Qu'est-ce que tu as pu apprendre?
Oui, en fait, en vue de l'automne, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a une nouvelle campagne de vaccination majeure qui va débuter du côté de Montréal. Alors, le site de vaccination du Stade olympique, comme vous voyez à l'écran, va reprendre du service. Et selon nos informations, bien, il y a le ministère de la Santé qui devrait faire le point au cours des prochains jours à ce sujet-là. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont déjà reçu des appels téléphoniques leur indiquant que leur rendez-vous dans un CLSC de l'Est de l'île a été annulé et qu'ils vont pouvoir en reprendre rendez-vous à la clinique de vaccination du Stade olympique dans Hochelaga. Et selon des personnes qui ont reçu l'appel, les rendez-vous pourront être pris à partir de ce lundi, le 15 août. Ce qu'on nous dit, c'est que la clinique ne devrait pas être aussi grosse quand même que la dernière.
Clinique du Stade qui avait été fermée en avril, hein?
Exactement. Le 8 avril dernier, après plus d'un an d'activité, et il y a plus d'un million de doses qui avaient été données à la clinique du Stade.
Merci beaucoup. On se tourne maintenant vers Laval, où Moderna va construire sa nouvelle usine. Où Philippe, c'est une décision qui arrive plus de trois mois après l'annonce initiale de la pharmaceutique.
Voilà, Étienne, Moderna qui avait annoncé le 27 avril dernier son intention d'ouvrir cette usine dans la grande région métropolitaine, mais n'avait pas précisé à ce moment-là le lieu exact. Mais voilà que c'est fait. Moderna qui a annoncé ce matin avoir signé une entente, un contrat avec l'Institut national de la recherche scientifique pour ouvrir cette usine située dans la cité biotech de Laval. Moderna dit avoir choisi ce lieu bien, par sa proximité au milieu de la recherche à l'INRS, mais également parce que ça répondait aux critères techniques de l'usine, une usine de 180 millions de dollars. Évidemment, ça réjouit bien des gens, le maire de Laval en premier, mais également Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec, qui a réagi sur les réseaux sociaux. Il a écrit que la pandémie a démontré à quel point notre autonomie en matière d'approvisionnement en vaccins est essentielle et que l'arrivée de Moderna au Québec, bien, c'est un signe d'innovation en santé. Bonne nouvelle également pour l'économie. On nous dit que ça permettra également d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur.
Il va y avoir des retombées sur le transport, sur tous les commerces de proximité également. On peut penser également de l'accessibilité à des talents. Alors même en pénurie de main-d'œuvre, on va pouvoir continuer à mieux attirer et mieux retenir des expertises de pointe pour les chercheurs et pour les autres personnes qui sont appelées à travailler tout autour d'une industrie de fabrication ici à Laval.
L'usine est présentée comme une solution à la dépendance canadienne aux vaccins étrangers, mais est-ce que ça va tout régler, ça, selon les experts?
Je te rappelle que dans les années 80-90, il y a plusieurs entreprises biotechnologiques de pharmaceutiques qui ont quitté le pays. Le Canada en avait ressenti les contre-coups, notamment durant cette course à la vaccination, à l'approvisionnement aux vaccins un peu partout dans le monde. Donc, avec l'arrivée de Moderna à Laval, bien, on se rapproche de la technologie ARN. On dit également que ça ouvre la voie au développement d'autres vaccins, mais ce n'est pas une solution miracle. Si on ne veut pas rejouer dans le scénario de 2020, bien, il en faudra plus, selon cet expert.
Puis on entrevoit beaucoup d'applications en médecine ou en recherche de cette technologie-là, de l'ARN messager. C'est très stimulant d'avoir un potentiel partenaire comme ça à proximité. Le Canada se place dernier du G7 en termes d'investissement au niveau de la recherche et du développement. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire.
Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
Aux États-Unis maintenant, depuis la perquisition chez Donald Trump, le pays est totalement polarisé. La situation devient plus difficile que jamais, à tel point que Merrick Garland, le procureur général du pays, s'est senti forcé de faire une sortie publique aujourd'hui. On retrouve à ce sujet-là Valérie Beaudoin, notre collaboratrice États-Unis. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Étienne.
On peut dire que tout le pays était vraiment suspendu à ses lèvres. Ça n'a pas été long, mais ça valait la peine.
Oui, parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait annoncer. Mais ce qu'il a dit, Merrick Garland, qui est l'équivalent du ministre de la Justice, c'est qu'il avait lui-même approuvé le mandat de perquisition. Donc, il avait vu tous les détails, qu'on a pris notre temps, qu'on n'a pas pris cette décision à la légère. Donc, c'était quelque chose de réfléchi. Et il a dit la chose suivante. Il a dit que c'était la décision de M. Trump de rendre ça public, parce que c'est lui qui l'a annoncé, la fameuse perquisition par communiqué, que le ministre de la Justice aurait pu ne rien dire, en fait, le département de la Justice. Mais ça, Étienne, j'en prends et j'en laisse parce qu'il y a souvent des fuites. Alors, à mon avis, on aurait quand même su qu'il y avait eu cette perquisition à la résidence privée de Donald Trump.
C'est assez rare qu'un procureur général va commenter une affaire en cours. Mais là, c'était vraiment nécessaire de briser le silence?
Bien, ce qu'il a dit, c'est dans l'intérêt du public. On en parle énormément. M. Trump en a parlé lui-même. Et là, il y avait des rumeurs de tous les côtés. Donc, il voulait un peu remettre les pendules à l'heure sans pouvoir donner vraiment de détails sur les motifs derrière ce mandat-là, sur ce qu'on a trouvé, la fameuse liste d'épicerie qu'on voudrait tous voir de ce qui a été perquisitionné à la résidence de Donald Trump. Mais il y a quand même eu des sorties de d'autres procureurs généraux. Je pense entre autres à Bill Barr sous Donald Trump. Mais déjà là, ça, c'était controversé parce que lui était allé peut-être trop loin dans certaines de ses déclarations sur des enquêtes en cours. Normalement, on a un peu plus de recul, comme Merrick Garland dans ses dernières déclarations. Il a quand même été sobre dans les circonstances, malgré le contexte, tu l'as mentionné, là, assez explosif de cette perquisition.
Absolument, parce que dans les derniers jours, on a vraiment critiqué beaucoup le FBI, le département de la justice. Puis là, il a vraiment voulu insister sur l'impartialité des forces de l'ordre. Et c'est vraiment au cœur là, des dissensions qu'on voit aux États-Unis en ce moment, hein?
Oui, il a dit « Je resterai pas silencieux lorsqu'on remet en question l'intégrité des gens qui donnent leur vie. Ce sont des patriotes au FBI, au département de la justice. » Il a dit « C'est des gens qui ont l'Amérique à cœur et qu'au contraire, ils font leur travail. » Donc, il refuse toutes ces attaques qui viennent du camp Trump, mais aussi des citoyens américains là, qui ne voient pas de raison pour aller faire des perquisitions chez Donald Trump. Et c'était un peu le même discours qu'on a vu de Christopher Wray, le directeur du FBI, qui a dit ça hier lors d'un point de presse, qu'il n'allait pas accepter ces attaques et ces menaces de violence aussi, parce qu'on a peur qu'il y ait des gens qui attaquent le FBI ou le département de la justice de façon plus générale.
Mais ça va vite avec tous les événements des derniers jours. On se demande où ça va mener tout ça, là, politiquement, puis au niveau de la justice, là.
Et c'est l'élément peut-être le plus intéressant où allons-nous, c'est qu'on veut rendre le mandat de perquisition public. C'est l'objectif du ministre de la Justice. Il a fait la demande à un juge. Il va peut-être le rendre disponible. Est-ce que ce sera dans les prochains jours, les prochaines heures? Sait-on jamais? Mais quand même, on se dit que le président l'a annoncé pour l'intérêt du public, l'intérêt du gouvernement. On veut rendre le tout public et avoir les détails sur cette perquisition.
Merci beaucoup, Valérie. On va continuer de suivre ça avec toi. À bientôt.
Merci, bonne émission.
Maintenant, les touristes sont de retour dans la métropole et la reprise dépasse largement les attentes que Tourisme Montréal avait pour la saison estivale de 2022. D'ailleurs, 85 % des lignes aériennes vers Montréal ont repris, dont 12 % des vols internationaux, avec un retour marqué des touristes français notamment. Ma collègue Anaïs El-Boujdaini a mis la main sur le bilan de demi-saison de Tourisme Montréal. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Il faut dire que la F1 a vraiment beaucoup aidé les choses. Hein?
Oui, puis après ce retour en force, bien, ça a été suivi par plusieurs festivals et ça, c'est venu donner un gros vent dans les voiles de l'industrie touristique, notamment le secteur hôtelier et le monde de la restauration. Pour te donner une idée, du côté des hôtels, bien, les taux d'occupation s'approchent de ceux de 2019, donc avant la pandémie, à presque 80 %. Ah oui. Et tu peux voir là, sur ce tableau que j'ai préparé, là, les revenus des réservations dans les hôtels sont de plus de 10 % par rapport à 2019 et 23 % de plus pour juillet seulement. Ça s'explique parce que les chambres d'hôtel se sont louées plus cher qu'avant la pandémie. Et il y a quand même des entraves qui empêchent le monde touristique d'atteindre son plein potentiel à Montréal, notamment la pénurie dans les hôtels et des problèmes aux frontières.
Ça demeure un défi énorme. Cet été, dans le fond, on a plusieurs employeurs hôteliers qui auraient pu profiter du recrutement étranger, mais les délais sont tellement longs que les gens sont embauchés, sont à l'étranger, mais n'ont pas pu venir.
Et le marché américain, je dirais qu'il y a encore un 10-15 % à aller chercher, dû, comme vous l'avez mentionné, à RIFCAN, qui est toujours une des mesures. Aussi, le nombre de visas qui tardent à être émis et finalement, tous les tests aléatoires là, aux aéroports.
Et on se demande, c'est quoi la recette pour revenir à ce qu'on avait avant la pandémie en tourisme? Hein?
Oui, parce que l'inquiétude, c'est de ne pas atteindre de nouveau des touristes qui reviendraient. Oui. Avant 2019, là, on était à plus... On est à entre 7 et 8 millions de touristes qu'on s'attend à avoir. Là, c'est 70 % par rapport à 2019. Mais il y a des stratégies, des stratégies en place pour les accueillir de nouveau là, au-delà de l'été.
On a comme projet de faire du centre-ville de Montréal le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord. Donc ça, c'est des investissements qu'on va faire au cours des prochaines années. La Ville a déjà annoncé 1 milliard d'investissements sur 10 ans.
Bien, il faut continuer à développer le tourisme d'affaires. Le tourisme Québec est en train de développer une politique sur le tourisme d'affaires. Donc je pense que c'est une façon qu'on peut aller chercher des gens. Il faut continuer à vendre Montréal, continuer à dire à Montréal qu'on est accueillant. Puis il faut s'assurer surtout qu'on ne refermera pas nos industries, les bars, les restaurants, les hôtels, dans les prochains mois, parce que l'hiver passé, c'est ce qui a fait peur aux gens.
Un dossier qu'on va continuer de suivre, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de l'économie du tourisme. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Depuis le début du mouvement, moi aussi, en 2017, les dénonciations pour des affaires d'agression sexuelle augmentent sans cesse. Mais les centres d'aide pour les délinquants sexuels font face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et en plus croulent sous les demandes. Pourtant, cette aide est essentielle, comme l'a constaté Camille Lorrain Desjardins.
Travailler auprès des hommes qui ont commis des délits, des infractions à caractère sexuel, ça fait partie de la solution à la lutte contre les violences sexuelles. Si un dégât d'eau et que la baignoire coule, si on fait juste prendre notre mop et nettoyer le dégât, bien, la baignoire va continuer à couler. Donc, il faut arrêter le robinet. Et le robinet, c'est les auteurs. Encore réussi à baisser d'une façon satisfaisante là, les listes d'attente. Dans la grande région métropolitaine, donc on parle Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, où il y a quand même beaucoup de demandes et c'est dans ces régions-là qu'on va attendre le plus longtemps.
Notre liste d'attente est de 4 mois, mais il y a à peu près 8 mois, un an, notre liste d'attente était à 2 à 3 ans. On a assumé moins de clients qui sont avant la sentence. Donc, on a comme hiérarchisé un petit peu la façon dont on a géré notre liste d'attente.
Ça peut être long quand même, 4 mois, 6 mois.
Ça peut être long parce que je vous dirais, les hommes, en général, quand la référence n'est pas vite, bien, ça se peut qu'ils se retirent et qu'ils ne reviennent pas.
C'est sûr que c'est préoccupant. La personne appelle pour avoir de l'aide, puis on dit c'est le fun que tu te mobilises puis que tu veux avoir de l'aide, mais on va te demander d'attendre 1 an parce qu'on n'a pas de service à te rendre. On a de plus en plus d'hommes qui se sont pas fait arrêter encore et qui ils veulent avoir des services, ou encore qui craignent le passage à l'acte. Et là, ils disent « j'ai besoin d'aide ». Fait que ça, c'est ça, ce qu'on voyait pas beaucoup avant.
On se rendait compte qu'on intervenait toujours après un passage à l'acte. Puis plusieurs fois, les clients nous disaient « mais si je savais ou si j'avais pu avoir de l'aide avant, peut-être que ça aurait pu m'aider à ne pas passer à l'acte ». L'objectif, effectivement, c'est de rejoindre des personnes qui auraient des intérêts sexuels envers les mineurs ou des fantasmes socialement inacceptables. Ça peut être des fantasmes de viol sur des animaux ou tout fantasme qui cause une souffrance pour la personne, et d'éviter un passage à l'acte.
Souvent, quand on dit « ah, moi, je travaille en délinquance sexuelle, oh my God, je ne sais pas comment tu fais pour travailler avec eux, moi, je ne travaillerai jamais avec eux autres, etc. » Donc, nous, on le fait. On le fait parce qu'on croit en ce qu'on fait, parce que la littérature, les recherches le démontrent. Travailler auprès des auteurs, c'est efficace. On va diminuer de 40 % le risque de récidive d'un auteur.
Au début, c'est vrai, ils n'ont pas le choix. Par la suite, nous, notre objectif, puis notre façon de travailler, c'est de responsabiliser les clients. Traiter nos clients, ce n'est pas les dorloter. Les traiter, c'est les responsabiliser.
Selon les études, on parle autour de 40 à 50 % là, des agressions sexuelles qui ont été commises par des jeunes de moins de 20 ans à l'endroit de mineurs. C'est un phénomène qui est stupéfiant. C'est tout à notre avantage de leur offrir les services nécessaires pour en faire encore une fois un bon citoyen et une personne responsable et respectable.
Maintenant, une bonne partie du centre-ville de Toronto se trouve privée d'électricité. La panne qui touche des milliers d'abonnés a été causée par une grue qui a touché des lignes à haute tension. La grue en question était transportée sur une barge dans le secteur du port. Cette panne affecte les transports, les entreprises, les commerces et même la bourse. Et les Torontois devront s'armer de patience car le courant ne sera pas rétabli avant tard ce soir ou même cette nuit. À compter de demain, Montréal accueille au Parc Jean-Drapeau la première édition de l'ASSO, un festival de musique country. Plusieurs artistes internationaux au menu, dont Luke Bryan et des stars locales comme Sarah Dufour, Matt Lang et Léa Jarry. Montréal n'a pas toujours été vu comme une ville de country, mais l'offre est de plus en plus grande. On va en parler avec Mike Gauthier, notre collaborateur. Bonsoir, Mike.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Donc oui, c'est
ah,
ça.
Ben, moi aussi.
Montréal, là, n'était pas toujours vu comme une ville de country, mais là, il y a une offre qui est de plus en plus importante et on voit que les Montréalais sont au rendez-vous.
Bien, je pense que ça ne sera pas uniquement les Montréalais. Je pense que depuis des années, il y en a des festivals country un peu partout au Québec. Puis en plus, on n'a qu'à penser au festival là, à Saint-Tite qui attire des dizaines de milliers de personnes. Là, c'est le gros événement. Fait que je pense que Montréal était dû, un peu comme dans le temps. Tu sais, à Chicago, il y avait des festivals partout. Il y avait les Lollapalooza. Puis à un moment donné, il y a de ça 15 ans, on a fait la première édition de Chicago, puis on l'a monté. Ensuite, il y avait le phénomène là, de l'Electronic Dance Music, le EDM. Là, maintenant, on a l'Illsonic. Puis je pense que maintenant, le country fait partie du quotidien de beaucoup de gens assez pour qu'on puisse organiser un aussi gros festival en fin de semaine.
Parce qu'il faut dire que les stars avant ne venaient même pas à Montréal, c'était pas dans leur itinéraire là.
Exactement. C'est sûr que maintenant, là, avec des gens qui vont donner des concerts au Centre Bell ou à Québec, vont donner des shows, puis que c'est à guichet fermé, là, il y a de l'intérêt. Les promoteurs font comme, OK, là, le country est bel et bien installé au Québec. Et d'ailleurs, Luke Bryan, là, celui qui va jouer samedi soir en tête d'affiche, c'est quand même celui qui avait été choisi par le Resort World. Là. Vous savez, l'hôtel de Las Vegas, dont on a parlé beaucoup, là, Céline oui. devait inaugurer ça, puis malheureusement, les plans ont été changés. Et Luke Bryan a de temps en temps sa résidence là-bas. Ça fait que ça démontre que ce gars-là est une grosse vedette internationale. Puis maintenant, au Québec, c'est comme ça. Quand il y a un gros nom du country international qui peut être en mesure de venir, bien, oui. on l'amène. Comme à Québec, il y a de ça quelques semaines, il y avait Luke Combs qui était là, puis c'était la plus grosse foule de sa carrière devant laquelle il a joué.
C'est incroyable de voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas rater à l'ASSO en fin de semaine, dans les prochains jours, là, les incontournables?
Ce qui est le fun avec le country, c'est que tout le monde est là, puis ça peut être bien intéressant. Mais c'est sûr que les têtes d'affiche, comme exemple Dirk Bentley, puis aussi Old Dominion, demain soir, c'est intéressant. Old Dominion, actuellement, sont en tournée avec Kenny Chesney, puis Dan Enche, puis ils vont faire deux soirs au stade des Patriots là, de la NFL dans le coin de Boston. Et puis, il y a Luke Bryan, comme je disais ici, Kelsea Ballerini à surveiller. C'est bien sûr une des stars montantes du country actuellement, avec un virage très pop country. Fait que je pense que les têtes d'affiche, ça vaut la peine d'être là samedi. Puis les Québécois, il y a entre autres Matt Lang qui va être là, qui est à surveiller lui aussi lors du Festival L'Asso.
Et tout ça a été alimenté beaucoup par les réseaux sociaux, évidemment, où on voit beaucoup les artistes country de plus en plus populaires. Mike Gauthier, merci d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.
À bientôt. Et c'est une fin de semaine qui s'annonce occupée pour les astronomes amateurs. En fait, c'est le moment de l'année où ça vaut vraiment la peine de s'arrêter, de regarder le ciel. Non seulement on pourra observer une super lune ce soir, mais on est aussi en pleine période des Perséides, dont l'apogée sera demain soir. Mon collègue Jacques-Alain Houle a rencontré des experts en la matière.
Tout un spectacle se déroulera dans notre ciel dans les prochains jours et on se trouve présentement à l'Astrolabe du Mont-Mégantic pour démystifier ces phénomènes.
Les pluies d'étoiles filantes vont être nommées par rapport à ce qu'on appelle le radiant. C'est un petit point dans une des constellations d'où les étoiles filantes vont sembler paraître. Puis pour les Perséides, au mois d'août, c'est dans la constellation de Persée. Au mois d'août, ce qui se passe, c'est que la Terre va rentrer dans un nuage de poussière laissé par une comète qui est cyclique, qui revient périodiquement autour du Soleil. Un tout petit grain de poussière qui va rentrer très rapidement dans l'atmosphère. Elles vont commencer à faire de la lumière à environ 100 ou 70 km au-dessus de nos têtes. C'est pas des étoiles qui bougent, c'est vraiment des poussières dans l'atmosphère terrestre. Le taux horaire actuel des Perséides, c'est à peu près 80 étoiles filantes par heure. Mais ça peut varier dépendamment de la météo, de la lumière. Une superlune, on qualifie ça comme une pleine lune ou une nouvelle lune qui est à son point le plus proche de la Terre. Puis en ce moment, c'est ça qu'on vit. Ça fait que dans le ciel, elle va nous paraître un petit pourcent plus gros. C'est pas beaucoup, mais on qualifie ça de superlune. On fait des vœux parce qu'il y a de cela fort longtemps, on s'imaginait le ciel comme un dôme au-dessus duquel les dieux vivaient. Et une fois de temps en temps, les dieux qui s'ennuyaient au-delà du dôme déchiraient le dôme et une des étoiles filait vers la terre, elle tombait. Et donc, les anciens pensaient qu'il y avait un dieu qui nous regardait. C'était donc le moment idéal pour faire un vœu pour qu'il soit écouté.
Bien qu'on attend du temps nuageux dans les prochains jours, ça ne gâchera pas la fête ici à l'Astrolabe du Mont-Mégantic qui est fin prêt à accueillir des milliers de visiteurs pour la première fois depuis la pandémie.
C'est le grand moment ici. On est au cœur de la réserve de ciel étoilé et le moment le plus important, c'est les perséides à chaque année. Nous, on a des activités. On offre des montants d'autobus toute la nuit aux heures. C'est complet pour la fin de semaine. C'est notre plus grosse fin de semaine. Des milliers de visiteurs se rassemblent. C'est vraiment un rassemblement annuel magique. C'est un moment excitant parce qu'on voit l'émerveillement dans les yeux des gens. Il y en a qui arrivent qui disent « J'ai jamais vu autant d'étoiles ». Nous, c'est notre bonheur, c'est pour ça qu'on est là. Nous, ce qu'on contrôle pas, on n'a pas d'émotion avec ça. On peut pas contrôler la météo. Mais nous, ce qu'on contrôle, c'est qu'on donne un spectacle à tout le monde. On explique l'astronomie, les percées, les étoiles filantes. Donc, on offre des activités très tripante. Puis même, on dit aux gens, si vous êtes chanceux, il fera pas beau, vous allez avoir plein de spectacles toute la soirée. Si vous prévoyez faire de l'observation en fin de semaine, pensez simplement à éteindre vos lumières extérieures, comme nos collègues dans l'Haut-Saint-François le recommandent avec raison. Placez-vous loin des villes. Prenez le temps. C'est important de prendre le temps de s'installer dehors avec une couverte, un chocolat chaud, pour avoir le temps que les étoiles arrivent à nous. Elles vont arriver, il faut être patient. Profitez-en, puis soyez dans l'émerveillement, amusez-vous.
Sabrina arrivée au fil 22h ce soir. Bonsoir.
Salut, Étienne.
Merci d'être là. Bon, là, c'est Félix Auger-Aliassime qui est en train de jouer à Montréal là, au
tennis. Ben oui, qui joue un autre match aujourd'hui. Il joue contre Cameron Norrie, qui est un Britannique. Et c'est toujours en action. Donc, il a déjà remporté le premier set. Reste à savoir s'il pourra se rendre encore plus loin. Il faut dire qu'au cours des... hier et aujourd'hui, il y a déjà des grosses têtes d'affiche qui sont tombées. Alors, peut-être plus de chances pour Félix Auger-Aliassime de se rendre plus loin dans le tournoi l'Omnium Banque Nationale du côté de Montréal.
Et un grand du jazz montréalais qui est honoré par la monnaie royale canadienne.
Ben oui, Oscar Peterson, pour oui. Ceux et celles peut-être qui le connaissent. Alors, c'est la monnaie royale qui a décidé de lancer cette pièce commémorative aujourd'hui en l'honneur de ce grand pianiste de jazz montréalais. Il est né à Montréal en 1925. Oscar Peterson est devenu une légende canadienne de la musique et au cours de ses 60 ans de carrière, quand même, il a remporté de nombreux Juno et Grammy Awards.
Et au fil 22 heures?
Oui, bien, on va revenir. Bon, Donald Trump qui fait encore jaser aujourd'hui et on va en parler encore une fois avec l'expert en politique américaine, Raphaël Jacob, et bien sûr d'autres nouvelles au fil 22.
Absolument, donc on rate pas ça. Merci beaucoup, Sabrina. Merci
plaisir.
D'avoir été là. Et vous, bien, je vous retrouve demain 17h30 pour une autre édition du fil. Merci d'avoir été là. Bon souper, bonne soirée. À demain.